C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Géant et chevalier de Michele Marchitto et d'Erika de Pierry, édition Père Fouettard. Le géant et le chevalier se connaissaient depuis tout petit. L'un à peine plus haut de 3 mètres, l'autre au joli frisottis. Chacun vivait dans son beau patelin, mais ils se retrouvaient chaque soir à mi-chemin. Ils couraient sur la plage en regardant le soleil se coucher derrière les nuages, avec mime sur les épaules de Mrar, car le contraire aurait été bizarre. Ils aimaient à peu près les mêmes choses, le pain chaud, le lait froid et les mêmes roses. Ils parlaient d'amour, d'avenir et de leurs envies, et évitaient de discuter des ennuis et du ciel gris. Toujours ensemble, comme des frères siamois, ils ont vécu heureux 12 années et 9 mois. Puis, une guerre a éclaté entre les géants et les chevaliers, et les anciens amis sont devenus ennemis jurés. C'était le choix des rois, pas des combattants, de se battre sans merci, le couteau entre les dents. Il n'y a eu qu'une seule bataille qui a duré 6 jours. Elle a pris fin avec 3 coups de corps sonnés chacun leur tour. Nous n'avons jamais su qui avait gagné ou perdu. Y a-t-il vraiment un gagnant quand la joie n'existe plus? Une fois tout le monde disparu, aussi bien les chevaliers que les géants, il ne restait plus rien, ni soldats, ni patelins, ni habitants. Dès le calme revenu, Mime est parti à la recherche de son ami. Il l'a retrouvé à côté d'une petite prairie. Il était au sol, en très mauvais état, et souffrait le martyr. Le petit chevalier s'est aussitôt empressé de le guérir. Il a rejoint la plage tout près de là pour récupérer de l'eau salée, et il s'en est servi, malgré la douleur, pour nettoyer ses plaies. Il a fait de son mieux pour l'aider à soulager sa peine. À la nuit tombée, il a chanté au géant une vieille rengaine. Les jours se sont transformés en semaines, ou peut-être en mois. L'état du géant s'était amélioré, mais il ne guérissait pas. Il était toujours étendu, triste et résigné. Alors il a demandé à son ami de l'abandonner. Mime a refusé net. « Mais tu as perdu la tête. Tu es mon frère, c'est sûr, je reste. » Mrar a demandé de l'eau pour en boire une gorgée, puis a changé de sujet avec un sourire discret. Lors d'une nuit étoilée, la neige a jeté sur le monde un voile blanc. Elle a recouvert tout et tout le monde. Elle a duré 1000 printemps. Le géant et le chevalier n'avaient rien remarqué. Et sous la lueur du soleil couchant, ils se sont endormis à jamais. Quand le monde a retrouvé sa chaleur d'été, la neige a laissé place à une colline élevée. De profil, il était évident pour tous les passants que la partie toute verte avait été notre géant, et l'arbre au sommet son chevalier aux cheveux bouclés, qui n'avait jamais accepté de le quitter. Maintenant, chaque automne, 2 pommes poussent sur ses branches, puis elles tombent et roulent comme une avalanche. Et celui qui les ramasse dans la vallée des fruitiers apprendra l'histoire d'une colline appelée Amitié.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu?
J'aime bien les espaces et j'ai aimé ma partie quand il dit la colline Amitié. Bah, c'est le lien entre le géant et le chevalier.
Alors moi, je trouve cette histoire hyper touchante parce que ça raconte bien que même après des années de conflit, on peut encore se réconcilier, être encore de très bons amis. Donc ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup cette fin dans le sens où ils n'ont pas vu le temps passer Parce que c'est vrai, quand on est avec son copain, on voit pas le temps passer. Et j'aime bien comment ils finissent, parce qu'ils finissent ensemble. Ils ont commencé ensemble, ils ont fini ensemble. Donc je trouve cette histoire très touchante.
Rêve d'écolier, de Georges Riguet, tiré de l'écharpe d'Iris, recueil des plus beaux poèmes du Grand Prix de poésie pour la jeunesse. Sur le bord du dictionnaire, un Bouvreuil s'était posé, qui lisait à sa manière ses lettres de l'ABC. Autour de la map monde voguait un papillon blanc. Il faisait le tour du monde, comme autrefois Magellan. Un corbeau portant lunettes écrivait au tableau noir toutes sortes de sornettes sur le compte du renard. Pendant la leçon d'histoire, où l'on eût pu s'ennuyer, une souris venait boire dans le trou de l'encrier. La classe était envahie par tout un peuple charmant qui, du chevreuil à la pie, donnait son enseignement. Le dindon parlait grammaire, le chat comptait sur ses doigts et l'âne occupait la chaire sans qu'on sache trop pourquoi. D'orthographe et d'analyse, nul n'avait souci beaucoup. Attentif comme à l'église, on entendait le coucou. À peine y pourrez-vous croire, tant le cas est peu fréquent, tous les livres de l'armoire avaient pris la clé des champs. Ne sachant plus où se mettre et très gêné dans son coin, le maître qui n'était plus maître, ni du maître ni de rien. Pourtant, jamais les élèves qui s'étaient si bien tenus, tant cette école de rêve plaisait à nos ingénus. Chacun, selon son caprice, disposait d'un oreiller. C'est le moment où Maurice, dans son lit, s'est réveillé.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ? Je trouve cette poésie incroyable parce que on raconte la vie de plusieurs animaux dans une école, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, une souris qui boit dans un trou d'encrier. Donc j'aime beaucoup ce côté, dans le sens où ils vivent dans quelque chose qui n'est pas normalement habitable, où il se passe beaucoup de choses, mais personne ne dort, et du coup, ils créent voilà, leur maison un peu. Et j'aime beaucoup cette chute de « c'est un rêve ». Parce qu'en en fait, on rêve de tout et n'importe quoi. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on n'a pas de limite dans les rêves. Et j'adore ça.
Bah, moi, ce qui m'a plu, c'est les rimes. Bah, c'est comme une poésie, quoi. C'est ça... La fin des mots, bah, ça rime.
C'est vrai que c'est ça qui est bien parce que ça dit aussi que tout a un lien dans l'histoire. Et du coup, tout est lié. À chaque fois, tout est lié dans l'école. Ils se côtoient pas forcément, mais ils sont liés par les mots. Et c'est ça qui est incroyable.
Le journal de Gurti, vacances chez Tête de Fesse de Bertrand Santini. Effroi. Journal, laisse-moi te dépeindre l'état de mes affaires. Je sais bien qu'il n'est point de grand destin qui ne puisse se soustraire aux épreuves et à l'inattendu, mais là, tout de même, faut pas charrier. Pour le dire d'une formule sobre et cinglante, j'ai les boules. Par une funeste fantaisie du hasard, me voilà contraint d'endurer la présence de deux chiennes sous mon toit. Cette confrontation avec la laideur et la bêtise m'est intolérable. Certes, je sauve toujours les apparences et sur mon visage poupin, un voile stoïque se charge de masquer mon désarroi, mais au fond de moi, je suis anéanti, décharné, démantibulé. Depuis que ces crasseuses ont colonisé mon empire, je vis avec la nausée pour seule compagne. Tout mon être intérieur est dérangé. Et j'en tiens pour preuve que, hier soir, à l'heure vespérale où le monde s'abandonne aux bras du crépuscule languissant, moi, j'ai eu la diarrhée. Le nez en pesant de tout son poids sur mon âme, j'ai contemplé ma selle ruisselante dans l'herbe en songeant. Tu vois, Jean-Jacques, ça, c'est ta vie. Tu le sais bien, journal, les gens sont d'épouvantables égoïstes. Et pour peu que l'on se montre gentil avec eux, ils se métamorphosent en de redoutables tyrans. On ne le répétera jamais assez. Entraide, partage et bons sentiments sont mères de guerre et de grandes famines. Aider son prochain ? Quelle idée saugrenue ! Qui m'a aidé, moi ? Qui a défendu ma maman quand on lui a arraché ses bébés qui venaient de naître ? Qui a porté secours à mes frères, mes sœurs et moi ? lorsque nous avons été jetés dans une poubelle dont je fus le seul, par miracle, à m'extraire. Et qui m'a aidé le jour où des enfants m'ont enfermé dans une cave. Qu'ils ont fait de moi un appât, accrochant des grelots à mon cou pour exciter des chiens de combat. Seule ma ruse et mon courage m'ont permis de m'évader, puis de coloniser cette maison habitée par les caboufigues. Je n'ai pas survécu à cette odyssée pour laisser ces deux migrantes envahir mon domaine. Dieu merci, elles sont complètement demeurées. On peut leur faire gober n'importe quoi. Ce soir, je leur ai fait croire que je téléguidais les cerveaux de Cassidy et Donovan, alors qu'aucune magie n'est nécessaire, pas plus que le Wi-Fi, pour qu'un enfant se comporte en crétin. Oh, mais je ne compte pas me laisser faire. Cette nuit, j'irai troubler leur sommeil. Je les fixerai d'un regard menaçant et ferai des bruits de bouche afin de créer un climat hostile. Mon esprit a déjà fomenté une myriade de plans diaboliques. À l'aurore, je prévois d'aller faire mes besoins dans les pantoufles de mère caboufille. Confiante en mon exemplaire propreté, cette naïve ne songera jamais à m'accuser. Les chiennes seront donc tenues pour responsables de cet attentat répugnant et reconduites à la frontière du jardin. Je les narguerai alors à travers la fenêtre en leur faisant des grimaces et je rigolerai bien. Sois rassurée, cher journal, avec moi, elles vont en baver.
Le tétard mystérieux de Stephen Kellogg par l'école des loisirs. Le facteur apporte un paquet pour Joseph. Oncle McAllister vivait en Écosse. Chaque année, il envoyait un cadeau d'anniversaire à Louis pour sa collection de sciences naturelles. « C'est le plus beau que j'ai jamais reçu !» s'écria Louis. Le lendemain, il emmena toute sa collection à l'école. « Regardez tous, ceci est un tétard !» disait Madame Schelberg. Elle demanda à Louis de le ramener souvent afin que toute la classe voie comment ce tétard deviendrait une grenouille. Louis baptisa le tétard Alphonse. Tous les jours, Alphonse mangeait plusieurs hamburgers. Louis trouvait qu'il apprenait facilement. Quand Alphonse devint trop grand pour son bocal, Louis le mit dans l'évier. Quand Alphonse ne tint plus dans l'évier, les parents de Louis lui permirent de s'installer dans la baignoire. Un jour, Madame Schelberg déclara qu'Alphonse ne deviendrait jamais une grenouille. Elle demanda à Louis de ne plus l'amener en classe. Les vacances d'été approchaient et Alphonse était devenu énorme. « Il est trop grand pour la baignoire », disait la mère de Louis. « Il est trop grand pour un appartement », disait le père de Louis. « Il a besoin d'une piscine », disait Louis. « Il n'y a pas de place dans notre appartement pour une piscine », répondaient les parents. Louis suggéra l'achat du parking voisin en vue d'y construire une piscine. « Cela coûte plus d'argent que nous n'en possédons », dirent ses parents. « Il faut confier ton tétard à un zoo ». L'idée de voir son tétard dans une cage rendait Louis très triste. Puis, en pleine nuit, Louis se souvint que la piscine du lycée était inutilisée pendant l'été. Louis cacha Alphonse sous une bâche et le fit passer clandestinement. Quand il fut sûr qu'Alphonse se sentait bien, Louis rentra se coucher. Tous les matins, Louis passait plusieurs heures à nager avec son ami. L'après-midi, il distribuait des journaux afin de gagner l'argent pour les hamburgers d'Alphonse. L'entraînement se poursuivait. Alphonse apprit à plonger et à remonter des choses du fond de la piscine. Les vacances d'été passèrent rapidement. L'école était de nouveau ouverte et Louis s'inquiétait pour Alphonse. Dès la fin de sa première journée d'école, il courut au lycée. Les lycéens étaient en train de se préparer pour les sports. Louis arriva juste au moment du départ de la première course. Alphonse était enchanté de tous ces nageurs. « C'est un sous-marin d'une autre planète !» beugla le prof. « Appelez la police, appelez la marine !»« Non, c'est un tétard !» protesta Louis. « C'est mon tétard !» Le prof était furieux et confus. « Tu as jusqu'à demain, cria-t-il, pour nous débarrasser de cette créature. » Louis ne savait plus quoi faire. En rentrant, il rencontra son amie, Mademoiselle Sivers, la bibliothécaire, et il lui raconta tout. Mademoiselle Sivers retourna au lycée avec lui, mais quand elle vit Alphonse, elle fut si effrayée qu'elle laissa tomber son sac et les livres qu'elle tenait sous son bras dans la piscine. Alphonse alla les chercher aussitôt. Alors, Mademoiselle Sivers téléphona à l'oncle McAllister en Écosse. Celui-ci expliqua qu'il avait attrapé le petit étard dans le Loch Ness, un grand lac proche de sa maison. « Je suis convaincue que ton oncle t'a offert un très rare monstre du Loch Ness, » conclut Mademoiselle Sivers. « Cela m'est égal, pleura Louis, c'est mon tétard et je l'aime !» Il pria Mademoiselle Sivers de l'aider à ramasser assez d'argent pour pouvoir acheter le parking à côté de chez lui et construire une piscine pour Alphonse. Soudain, Mademoiselle Sivers eut une idée. En 1639, une bataille a eu lieu dans le port de notre ville, dit-elle. Un bateau de pirates a sombré et personne n'a été capable de le retrouver. Nous le retrouverons peut-être. Le lendemain matin, Mademoiselle Sivers et Louis louèrent une barque. Au milieu du port, Louis montra à Alphonse une image du coffre contenant le trésor. Alphonse disparut sous l'eau et ressortit avec le coffre. Louis et Mademoiselle Sivers achetèrent le parking. Ils engagèrent quelques aides. Et la piscine terminée, tous les enfants de la ville y furent invités. Cette nuit-là, Louis dit « Alphonse, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire. Ce qui veut dire que nous sommes amis depuis presque un an. » Très loin, en Écosse, oncle McAllister pensait aussi au prochain anniversaire. Au cours d'une promenade, il découvrit une curieuse pierre nichée dans un amas de branchages. « Ce sera le parfait cadeau pour mon neveu » s'exclama-t-il. « Je vais le lui apporter personnellement. » Oncle McAllister arriva chez Louis et lui remit le cadeau. Louis était impatient de l'adjoindre à sa collection. C'est alors que la pierre se fissura.
La paire de chaussures. Conte tiré du recueil La sorcière de la rue Mouffetard. De Pierre Gripari.
Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble. La chaussure droite, qui était le monsieur, s'appelait Nicolas. Et la chaussure gauche, qui était la dame, s'appelait Tina. Elles habitaient une belle boîte en carton où elles étaient roulées dans du papier de soie. Elles s'y trouvaient parfaitement heureuses, et elles espéraient bien que cela durerait toujours. Mais voilà qu'un beau matin, une vendeuse les sortit de leur boîte afin de les essayer à une dame. La dame les mit, fit quelques pas avec, puis, voyant qu'elle lui allait bien, elle dit
« Je les achète. »«
Faut-il vous les envelopper ?» demanda la vendeuse.
« Inutile. Je rentre avec. »
Elle paya et sortit avec les chaussures neuves au pied. C'est ainsi que Nicolas et Tina marchèrent toute une journée sans se voir l'un l'autre. Le soir seulement, ils se retrouvèrent dans un placard obscur.
« C'est toi, Tina ?»«
Oui, c'est moi, Nicolas. »«
Ah, quel bonheur ! Je te croyais perdu. »
« Moi aussi, mais où étais-tu ? » ?»«
Moi ? Ben, j'étais au pied droit. »«
Moi ? J'étais au pied gauche. » »«
Je comprends tout. Toutes les fois que tu étais en avant, moi j'étais en arrière. Et lorsque tu étais en arrière, moi j'étais en avant. C'est pour cela que nous ne pouvions pas nous voir. »«
Et cette vie-là va recommencer chaque jour ? » ?»«
Je le crains. » »«
Mais c'est affreux ! Rester toute la journée sans te voir, mon petit Nicolas. Je ne pourrai jamais m'y habituer. » »«
Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis toujours à droite et toi toujours à gauche... « Eh bien, chaque fois que j'avancerai, je ferai en même temps un petit écart de ton côté. Comme ça, nous nous dirons bonjour, d'accord ?»«
D'accord. » Ainsi fit Nicolas, de sorte que, tout au long du jour suivant, la dame qui portait les chaussures ne pouvait plus faire trois pas sans que son pied droit vienne accrocher son talon gauche. Et plaf ! À chaque fois, elle s'étalait par terre. Très inquiète, elle alla, le jour même, consulter un médecin.
« Docteur, je ne sais pas ce que j'ai, je me fais des croche-pieds à moi-même.
Des croche-pieds à vous-même?
Oui, docteur, à chaque pas que je fais, ou presque, mon pied droit accroche mon talon gauche et cela me fait tomber.
Ah, c'est très grave. Si cela continue, il faudra vous couper le pied droit. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 10 000 francs de médicaments. Donnez-moi 2 000 francs pour la consultation et revenez me voir demain.
Le soir même, dans le placard, Tina demandait à Nicolas. Tu as entendu ce qu'a dit le docteur?
Oui, j'ai entendu.
C'est affreux. Si on coupe le pied droit de la dame, elle te jettera et nous serons séparés pour toujours. Il faut faire quelque chose.
Oui, mais quoi?
Écoute, j'ai une idée. Puisque je suis à gauche, c'est moi, demain, qui ferai un petit écart à droite, à chaque fois que j'avancerai. D'accord?
D'accord.
Ainsi fit-elle, de sorte que, tout au long du deuxième jour, c'était le pied gauche qui accrochait le talon droit. Et plaf! La pauvre dame se retrouvait par terre. De plus en plus inquiète, elle retourna chez son médecin.
« Docteur, cela va de moins en moins. Maintenant, c'est mon pied gauche qui accroche mon talon droit.
Ah, »« C'est de plus en plus grave. Si cela continue, il faudra vous couper les deux pieds. Tenez, voici une ordonnance. Vous en avez pour 20 000 francs de médicaments. Donnez-moi 3 000 francs pour la consultation et surtout, n'oubliez pas de revenir me voir demain. »
Le soir même, Nicolas demandait à Tina.
« Tu as entendu ?»«
J'ai entendu. » »«
Si l'on coupe les deux pieds de la dame, qu'allons-nous devenir ?»
Je n'ose pas y penser.
Et pourtant, je t'aime, Tina.
Mais moi aussi, Nicolas, je t'aime.
Je voudrais ne jamais te quitter.
Moi aussi, je le voudrais.
Ils parlaient ainsi dans l'obscurité, sans se douter que la dame qui les avait achetés se promenait dans le couloir, en pantoufles, parce que les paroles du médecin l'empêchaient de dormir. En passant devant la porte du placard, elle entendit toute cette conversation, et comme elle était très intelligente, elle comprit tout.
C'est donc ça. Ce n'est pas moi qui suis malade, ce sont mes chaussures qui s'aiment. Comme c'est gentil.
Là-dessus, elle jeta à la boîte aux ordures les 30 000 francs de médicaments qu'elle avait achetés et le lendemain, elle dit à sa femme de ménage.
Vous voyez cette paire de chaussures? Je ne les mettrai plus jamais, mais je veux les garder quand même. Alors, cirez-les bien, entretenez-les bien, qu'elles soient toujours brillantes et surtout, ne les séparez jamais l'une de l'autre.
Restée seule, la femme de ménage se dit. Madame est folle de garder ses chaussures sans les mettre. Dans une quinzaine de jours, quand madame les aura oubliées, je les volerai. 15 jours plus tard, elle les vola et se les mit aux pieds. Mais quand elle les eut mises, elle aussi commença à se faire des croche-pieds à elle-même. Un soir, dans l'escalier de service, comme elle descendait les ordures, Nicolas et Tina voulurent s'embrasser et badaboum, vlang bing boum. La femme de ménage se retrouva assise sur un palier, avec plein d'épluchures sur la tête et une pelure de pommes de terre qui pendait en spirale sur son front, comme une boucle de cheveux.
« Ces chaussures sont sorcières. Je ne les mettrai plus. Je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. »
C'est ce qu'elle fit. La nièce qui était boiteuse, en effet, passait presque toute la journée assise sur une chaise, les pieds joints. Quand par hasard elle marchait, c'était si lentement qu'elle ne pouvait guère s'accrocher les pieds. Et les chaussures étaient heureuses, car même dans la journée, elles étaient le plus souvent côte à côte. Cela dura longtemps. Malheureusement, comme la nièce était boiteuse, elle usait d'un côté plus vite que de l'autre. Un soir, Tina dit à Nicolas, « Je sens ma semelle qui devient fine, fine. Je vais bientôt être percée. »
« Ne fais pas ça. Si on nous jette, nous allons être encore séparés. »
« Je le sais bien. Mais que faire? Je ne peux pas m'empêcher de vieillir. » Et en effet, 8 jours plus tard, sa semelle était trouée. La boiteuse acheta des chaussures neuves et jeta Nicolas et Tina dans la boîte à ordures.
Qu'allons-nous devenir?
Je ne sais pas. Si seulement j'étais sûre de ne jamais te quitter.
Approche-toi et prends ma bride avec la tienne. De cette façon, nous ne serons pas séparés.
Ainsi firent-ils. Ensemble, ils furent jetés à la poubelle. Ensemble, ils furent emportés par le camion des éboueurs et abandonnés dans un terrain vague. Ils y restèrent ensemble jusqu'au jour où un petit garçon et une petite fille les y trouvèrent.
« Oh, regarde, les chaussures, elles sont bras dessus, bras dessous.
Ah, »« C'est qu'elles sont mariées ensemble ?»«
Eh bien, puisqu'elles sont mariées ensemble, elles vont faire leur voyage de noces. »
Le petit garçon prit les chaussures, les cloua côte à côte sur une planche, puis il porta la planche au bord de l'eau et la laissa descendre, au fil du courant, vers la mer. Pendant qu'elle s'éloignait, la petite fille agitait son mouchoir en criant.
« Adieu, chaussures, et bon voyage !»
C'est ainsi que Nicolas et Tina qui n'attendaient plus rien de l'existence, eurent quand même un beau voyage de noces.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.